Lutte.
Ouais, Lutte.
En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Président qui devait être le président d'aucune guerre et qui a décidé quand même d'aller de l'avant en Iran. Là, trompez-vous pas, là, j'ai versé zéro larme quand j'ai appris que l'Ayatollah Khamenei était décédé, zéro. Je pense que c'est une très bonne chose que ce gars-là ait débarrassé la planète. Mais ça n'implique que moi comme opinion. Mais au-delà de ça, par contre, pour ce qui est de l'opinion publique américaine, j'ai pas le sentiment que les Américains avaient un appétit vorace pour partir en guerre. D'ailleurs, le président voulait même pas dire le mot guerre. Il utilisait les termes c'est quoi? C'était une mission spéciale ou c'était un coup d'éclat in and out. Et depuis maintenant, parce que là on l'oublie, mais ça va faire deux semaines, là. Ça va faire deux semaines samedi.
Oui.
Il nous parlait de quelques jours. Il a dit, garde, on rentre, on règle tout ça. Et d'ailleurs, moi, dans les derniers jours, la seule chose que j'entends de la bouche de Donald Trump, c'est tout est détruit. Il n'y a plus rien en Iran, il n'y a plus rien. Alors que l'Iran continue d'envoyer des communiqués. L'Iran continue de se défendre, d'envoyer des missiles. Il y a même un nouveau Ayatollah qui a été nommé. C'est le fond. On est passé de l'Ayatollah Khomeini à l'Ayatollah Khomeini.
Ben, c'est le fils.
C'est son fils.
C'est le fils, puis il paraît qu'il est pire.
Qui s'est assis à sa place. Essayons de...
Il est encore plus anti-américain que son père, dit-on.
Ben, puis je suis pas sûr que le sentiment anti-américain est en baisse c'est chez les Iraniens. Quoi qu'il y en a, évidemment, qui avaient bien hâte que les Américains fassent quelque chose. Mais évidemment que là, si on est pour s'embourber dans un conflit qui va durer, quoi, des mois, des années, je suis pas certain que c'était le plan. Benjamin Tremblay, de 7 jours sur Terre, bonjour. Est-ce que c'était le plan, d'après toi?
Salut, boss. Ça va très bien. Je suis content que tu aies un peu de temps pour moi aujourd'hui. Ça va pas très bien du côté des États-Unis. Ça va vraiment pas très bien, honnêtement. Puis assez que j'ai l'impression... On peut pas dire que l'Iran est en train de gagner la guerre, là, soyons très clairs. Mais une chose est sûre, c'est que les États-Unis sont clairement pas en train de gagner non plus. Puis la trajectoire qui est en train de prendre ce conflit-là, c'est pas du tout ce qu'on avait en tête quand on l'a commencé. Puis c'est largement dû au fait que l'Iran joue bien ses cartes. Là, en ce moment, t'en as un qui suit son plan à la lettre, noir sur blanc, étape par étape, depuis le début, de manière très fidèle. Puis t'en as un autre qui a changé de plan 5 ou 6 fois. Fait qu'on voit tout de suite c'est qui a l'initiative entre les deux. Les Iraniens, honnêtement, sont dans une séquence qui est très avantageuse. Puis là, je vous entends déjà là, me dire, franchement, Benjamin, on a détruit la marine, on a détruit l'infrastructure pétrolière, on a détruit, décapité des éléments très influents du gouvernement. T'en parlais tantôt, l'Ayatollah, mais aussi beaucoup de son entourage là, qui ont été tués d'un frappe initiale et subséquente. Fait que ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. Permettez-moi d'apporter un peu de nuance. L'Iran est loin de s'en sortir indemne, est absolument loin de crier victoire puis dire on a battu les États-Unis. Mais les objectifs stratégiques de l'Iran, les objectifs de guerre, quand tout ça a commencé, c'était pas de battre les États-Unis dans une guerre conventionnelle. Tout le monde était au courant
de
ça.
On savait.
L'objectif, c'était de survivre, de traverser autant que possible la guerre pour éviter un soulèvement populaire puis l'effondrement du régime. That's it. That's all. La stratégie qu'a adoptée le régime pour faire ça est en train de les rapprocher sérieusement d'une conclusion qui irait du bord de l'Iran, bien plus que du bord des États-Unis. Puis ce que je veux dire par là, c'est que là, actuellement, là, la première guerre, bon, on a vu la guerre de 12 jours en juin passé. Qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens à ce moment-là? Ils sont vraiment concentrés sur surtout Israël, un peu les États-Unis, mais il est important de se souvenir, hein, que, tu te souviens comment s'était passé cette guerre-là, JC, cet été, c'était largement une guerre israélienne. Les Américains avaient été bombardés à fin, là, avec les B-2, on se demandait s'ils allaient le faire ou pas, Trump avait été sollicité, parce qu'il y avait juste eux qui étaient capables de livrer cette munition-là, cette énorme bombe qui pouvait détruire souterrain. Maintenant, on arrive dans un nouveau conflit où là, les États-Unis sont directement impliqués, mais pas juste les États-Unis. Les États-Unis, ils attaquent pas juste à partir de leur porte-avions puis à partir de leurs navires dans la région. Ils attaquent aussi à partir de l'ensemble de bases, la constellation là, d'installations militaires que tu as à travers les pays du Golfe. Fait que l'Iran a vu ça, s'est dit « You know what? Vous êtes tous des partenaires dans la campagne israélo-américaine. Vous méritez donc de vous faire amener dans cette guerre. » Puis au-delà de tout ça, la stratégie de l'Iran, c'est-à-dire, cette fois-ci, là, on va amener tout le monde avec nous dans le trou noir que c'est la guerre.
C'était la crainte généralisée que le Moyen-Orient au complet devienne une poudrière. Ouais. Et c'est exactement... Ouais. Mais c'était le plan de l'Iran. Depuis des décennies que c'est le plan de l'Iran.
C'est ce qui rend ça encore plus absurde, parce qu'on s'entend, c'est une campagne là, qui était relativement prévisible. On voyait venir qu'il allait avoir une opération contre l'Iran. L'Iran était au courant, les États-Unis étaient au courant, Israël, toute la communauté internationale. La question se pose à savoir, écoute, dans chaque simulation qu'on fait, dans chaque war game depuis des décennies où on imagine comment se passerait un conflit contre l'Iran, c'est systématique, ça se finit avec un blocage du détroit d'Hormuz.
Ouais.
C'est instantané. Donc, c'est incompréhensible pourquoi les Américains n'ont pas été en mesure d'abord de l'anticiper, d'empêcher que ça se produise, parce que c'est là que je voulais en venir. Quand je vous dis que l'Iran est en train de gagner puis de changer un peu l'horizon de la guerre, c'est qu'ils sont en train de modifier les objectifs initiaux des États-Unis, qui, eux, disaient « ça va durer des semaines, ça va durer des mois, on va là avec des objectifs maximalistes jusqu'au boutiste, on veut retirer le régime du pouvoir. » Maintenant, ben là, la stratégie iranienne, c'est-à-dire dire « Ouais, tu me dis que ça va durer des semaines, good. J'attaque tous les pays de la région au complet. » Et là, ce qu'on voit, c'est que non seulement on attaque les pays en tant que tels, mais on attaque les infrastructures pétrolières. Mmh. On a attaqué hier des pétroliers au port amarré en Irak. On a attaqué des usines de dessalement des eaux. Fait que vraiment, l'objectif ici, là, c'est d'aller handicaper ces pays-là. Puis l'impact qu'on voit déjà, c'est non seulement que le détroit d'Hormuz est bloqué puis que tous ces pays-là n'ont plus accès aux marchés internationaux puis qu'on a donc un blocage pétrolier. Et là, ça fait chier, oui, les pays du Golfe, mais ça fait chier aussi les États-Unis. Avec l'augmentation du prix à pompe, ça fait mal à Trump politiquement. En Europe, même affaire, en Asie, la Chine, c'est le monde entier qui est amené là-dedans. Et là, soudainement, les pays du Golfe, eux autres, qui en ce moment ne peuvent plus sortir la marchandise. Il y a un enjeu logistique qu'on doit considérer, c'est le stockage. Ils n'ont plus de capacité de stockage, et ce, depuis maintenant plusieurs jours dans certains cas, notamment, je pense au Qatar, au Koweït, à l'Irak. Tout le monde est obligé de ralentir, sinon de carrément fermer sa production. Parce que tu te souviens ce qui est arrivé ici, là, au Canada, en Alberta, pendant la COVID, on remplissait des trains. On ne savait plus quoi faire avec le pétrole, mm-hmm. Personne ne voulait. Parce qu'on remplissait des trains.
Juste peut-être pour expliquer, tu peux pas, c'est pas une switch.
Pas fermer,
c'est exact, c'est non, pas, non, c'est pas off, on attend deux semaines, on rouvre la switch, ça prend des semaines ouvrir une menu.
C'est exact. Exactement. Ben si tu fermes le puits, il se remplit presque instantanément. Il faut comprendre, ça prend de la pression dans ces puits-là. Là, c'est extrêmement profond ce qu'on fait, ce qu'on envoie des liquides. On fait de la pression hydraulique. C'est la même chose avec les puits de pétrole aussi. Si tu arrêtes de les opérer presque instantanément, là, il y a une dégradation vraiment intense qui se produit. Donc, ce que nous disent déjà les pays du Golfe, c'est là, même si vous rouvrez le Golfe maintenant. Nous autres, on en a pour des semaines, rien qu'à essayer de réatteindre le niveau auquel on était. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, à cause de la pression boursière, les marchés qui paniquent, à cause du blocage du détroit d'Hormuz, le monde qui est bloqué de 20% de sa production pétrolière, à cause de la pression qui vient des pays du Golfe, qui disent « là, mon homme, il faut que ça arrête », puis à cause de la pression qui vient de l'Europe puis de tout le monde sur la planète.
Et des États-Unis.
Les Américains sont... Ben oui, puis les États-Unis. Les Américains sont forcés de compresser leur agenda pour l'Iran en à peu près 5 à 10 jours. Puis je vais te dire pourquoi je te dis déjà de 5 à 10 jours. C'est que tu as vu ce qui s'est passé avec le pétrole. Là, on voit, OK, on a 20 millions de barils par jour qui sont bloqués dans le détroit d'Hormuz. Trump nous dit... Good. Notre réponse, ça va être... Premièrement, il nous dit, inquiétez-vous pas, ça ne durera pas, inquiétez-vous pas, ça achève. On a quasiment fini. Ça, c'est déjà une reconfiguration de leurs objectifs. Là, il nous disait qu'il y en avait pour des semaines.
Ouais.
Mais encore plus que ça, là, il nous dit, inquiétez-vous pas, on va sortir 20 millions de barils par jour pendant 20 jours. 400 millions de barils. Il vient carrément de nous dire là, que la guerre ne peut plus durer plus de 20 jours.
Oui, parce qu'après,
que
on
dans 20
on tombe.
Jours, il faut que... Exactement.
Parce qu'ils prennent leur réserve stratégique. Puis là, l'autre affaire, ils vont vider leur réserve stratégique. Là.
Ben oui. C'est des réserves stratégiques qui sont censées être utilisées en temps de guerre, JC. Là, c'est un peu... Les Américains sont vraiment en train d'improviser de jour en jour. C'est pathétique. Pour donner une idée, un autre élément qu'on voyait venir aussi, c'était si la guerre se prolonge plus que 5 à 10 jours, il allait manquer de stock de munitions, des intercepteurs, munitions avancées, des munitions à tête chercheuse. Tout de suite, on avait averti Trump et on y avait fait flasher les lumières en rouge avant même que le conflit commence. Notamment General Kane, qui est responsable du Central Command pour les opérations, justement, du Pentagone dans la région, avait dit... Faut faire attention, là, ça se pourrait bien gros qu'on manque de munitions. Ben là, les Américains en sont rendus à cannibaliser les stocks que dans le Pacifique. Ils font venir les stocks de munitions puis de missiles qu'ils ont en Corée pour se protéger contre la Chine, puis ils les envoient au Moyen-Orient. Wow. Fait qu'on a, ah non, on a vraiment une situation qui est complètement lunaire. C'est difficile de comprendre comment ça pourrait se prolonger plus que 5 à 10 jours encore. Là.
C'est tout ce qu'on ne souhaite pas, mais est-ce qu'on risque de voir les Américains commencer, si ça s'éternise, puis juste préciser ma pensée, là, je pense que ça s'éternise déjà, puisqu'on nous avait dit que ça durerait quelques jours. Fait que dans ma tête, on est déjà dans l'après, mais est-ce que les Américains risquent peut-être d'appeler d'autres pays autour, puis peut-être même plus élargi, le G7, le Canada, l'OTAN, à venir les assister là-dedans. On ne souhaite pas que ça devienne justement cette poudrière-là qu'on ne veut pas voir depuis toujours, mais à un moment donné, le 14 fait bombarder à répétition l'Arabie saoudite, les Émirats arabes. Est-ce qu'eux autres, un jour, vont peut-être dire, bien, écoute, on va sauter dans le tas?
C'est ça. Mais essentiellement, il y a quelques points à apporter. Premièrement, les pays du Golfe ont vraiment des capacités très limitées. Quelques avions qui peuvent déployer en ce moment, quelques navires. Oui, largement. C'est toutes des armes achetées aux Américains. Puis, ils se plaignent, en fait, à dire, là, on n'a pas de stock pour se défendre. C'est les Américains qui ont promis des munitions à tout le monde avant. Bon, il faut revenir dans la séquence un peu. Tu as eu la guerre en Ukraine. On s'est mis à vider nos stocks pour l'Ukraine. Les Européens, les Américains, tout le monde a rempli les coffres de l'Ukraine en se disant, on va passer à travers ça, puis on va remplir nos stocks de munitions ensuite. Là, après ça, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Américains sont en train de dépenser les munitions qu'ils avaient promis pour remplir les inventaires de tout le monde. Les Européens, on leur avait mis un gun sur la tempe à dire, vous n'avez pas le choix d'acheter des munitions américaines, ça va réduire le déficit commercial, puis nous, ça va nous permettre de réarmer l'Occident, de refaire l'alliance de l'OTAN, puis de revenir plus fort. Fait que les Européens ont tous passé des grosses commandes aux Américains, puis là, ils regardent les États-Unis tirer les munitions qui sont censées être livrées dans leur pays. Littéralement.
Ben oui.
Fait que t'as des pays européens, des pays du Golfe, eux autres, ils commencent déjà à être stressés.
Ils viennent de réaliser qu'ils n'auront pas leur livraison. Là.
Ils n'auront pas leur livraison, parce qu'entre toi et moi, là, mettons là, que les Américains vont relancer la production, là, on augmente, on commence à sortir des missiles. Penses-tu qu'ils vont remplir les stocks des Européens avant de remplir les leurs dans le Pacifique? Penses-tu qu'ils vont remplir les stocks de l'Ukraine, puis de ben non, puis du Canada? Nous autres aussi, on attend après nos avions de chasse en passant les F-35, on l'a jamais eu. Fait que c'est pour tout ça que je pense que les Américains... Le message qu'ils nous envoient, c'est curieux. Là. J'écoutais justement hier là, une discussion fascinante là-dessus par des analystes. Puis le discours qui nous provient de Washington, c'est vraiment, on n'a pas besoin de vous autres. Venez surtout pas vous mêler de ça. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour nous venir en aide. Notamment, les Américains sont extrêmement irrités en ce moment par la France. La France qui a décidé d'envoyer 10 navires. Puis bon,
son porte-avions, ça avec...
Exactement. Où là, on dit, bon, voilà la France qui veut jouer à Godzilla dans le Moyen-Orient. La réalité, c'est que les Américains préfèrent être en contrôle de la situation. S'ils avaient voulu une coalition, je pense qu'ils l'auraient composée. Mais il faut se souvenir quand même que Trump regarde les Européens avec un mépris vraiment total, là. À tort ou à raison. Là, vous avez le droit de déterminer ce que Trump a tort ou a raison dans cette équation-là. Mais une chose est certaine, c'est que Trump n'a pas les Européens en haute estime au niveau militaire. Même chose pour le Canada, etc. Fait que moi, je pense pas qu'il y a quiconque qui va être impliqué là-dedans. Ma prédiction, là, c'est qu'on est en train de chercher une porte de sortie. Ça risque d'être beaucoup plus difficile qu'on pense. Puis à cause de ce que je te disais tantôt, là, les Américains voient très bien, ça peut plus durer des semaines sans que ça devienne une menace mortel à l'économie. Puis ça, soyons clairs, il n'y a jamais un président américain qui a résisté à ça. Un baril de pétrole à 110, 120 $, c'est létal. Remonte n'importe où dans l'histoire récente des États-Unis, ça ne se survit pas. Donc, Trump voit ça venir. Les Iraniens sont aussi au courant, là. Ils voient très bien qu'à partir de maintenant, c'est eux autres qui sont en contrôle de la situation. Et là, ce matin, juste pour rire, on a une déclaration de Mojtaba Rahmani, nouvel ayatollah, le fils du précédent, qui nous dit « On va garder le détroit d'Hormuz fermé. » Et hier soir, juste avant de me coucher, je capotais en lisant ça. Je fais toujours une revue de presse du Moyen-Orient vers minuit parce qu'eux sont rendus dans le début de la matinée. Et là, je regardais le président iranien qui, hier, Massoud Pezeshkian, impose 3 conditions pour un cessez-le-feu avec les Américains. Et c'est eux qui sont en train de donner des conditions puis de dire « Non, 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 nous autres, on n'arrête pas la guerre. Vous pensez que vous allez pouvoir arrêter ça quand vous voulez. C'est nous autres qui décident, puis voici les conditions. » Premièrement, ils veulent, on dit, reconnaître les droits légitimes des Iraniens, probablement qu'il est question du programme nucléaire. Deuxièmement, ils veulent des garanties comme quoi il n'y aurait plus jamais d'attaque israélo-américaine, du moins pour une période, on s'entend. Puis on s'entend, là, ils ont raison de demander ça. Les seuls qui peuvent empêcher Israël de lancer une nouvelle attaque, c'est les Américains, qui pourraient tenir ça à l'est. Puis la troisième demande, veux-tu savoir à quel point ils sont confiants, à quel point ils ne sont pas pressés de mettre fin à la guerre? Leur troisième demande, c'est des réparations.
Oh! Ils veulent de l'argent!
Vous allez payer pour ce que vous avez brisé.
Mais
on, écoute, mais on est vraiment dans une situation où les Iraniens sont en train d'essayer de faire des demandes, ils revendiquent puis ils exigent parce qu'ils sont au courant qu'en ce moment, ceux autres qui ont les cartes. Vas-y, bombarde-moi, mon homme. Tu peux bombarder, transformer ça en stationnement si tu veux. Ça ne change absolument rien. Jamais dans l'histoire, un pays qui s'est fait bombarder a arrêté de se battre. JC, tu connais ton histoire comme moi. On a bombardé l'Allemagne jusqu'à la transformer en stationnement. On a bombardé Dresden, on a bombardé les pays, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, le Vietnam, n'importe quand. C'est pas les bombardements stratégiques qui cassent la volonté puis la résilience d'un peuple. C'est le contraire. Ça les mobilise ensemble puis ça les invite à se battre puis à se venger. Fait que là, en ce moment, je pense que les Américains sont en train de réaliser qu'ils ont peut-être commis une énorme erreur stratégique.
Et d'ailleurs, où est le peuple iranien? Je comprends qu'il n'y a pas les moyens, peut-être aussi, qui a déjà été affecté, des dizaines de milliers de morts, la répression, etc. Mais je pense peut-être que les Américains s'attendaient aussi à une réponse de l'interne qui ne vient pas.
Qui ne vient pas, exactement. Puis il faut comprendre, je pense, là-dessus, la population iranienne, parce que...
Ils sont terrorisés.
Là, t'as les Américains, ben oui, t'as les Américains qui disent, on va peut-être envoyer des Kurdes, on va bombarder, on va essayer de vous appuyer. Et le lendemain, t'as Trump qui va dire, ah non, on achève, puis on t'avait de sortir de là.
Ouais.
Puis on a quasiment gagné, puis c'en est presque fini. Et un jour, il dit, on remplace le régime. Le suivant, il va dire, ah, on est prêt à négocier avec eux autres. Fait que là, si toi, t'es un Iranien qui pense à peut-être sortir, flipper des chars puis les brûler dans la rue, c'est sûr que tu second-guesses un peu en disant, ben les Américains vont-tu vraiment être là pour nous appuyer jusqu'au bout? Fait que si tu vois la population iranienne qui est un peu dans la même incertitude que les Kurdes, à qui on a promis un appui, à qui on a dit, allez vous battre en notre nom, on va vous aider. Il n'y a personne à date qui est prêt à signer en bas de la feuille parce que les Américains sont vus comme un partenaire qui n'est pas fiable. Puis honnêtement, ils ont raison. C'est tout à fait vrai. Les Américains systématiquement abandonnent leurs partenaires depuis à peu près 10 ans. Fait que là-dessus, ben, c'est juste de la logique.
Puis évidemment que le conflit en Iran prend toute la place. Là, mais en attendant... Tous les autres sujets sont sur pause. Là. On parle plus de Cuba, on parle plus de l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine qui est en train d'envoyer le monde à l'envers. La Russie qui pourrait peut-être vendre du pétrole, finalement, parce que ça donne bien. Et l'Ukraine qui pourrait prendre des armes pour les envoyer pour le combat au Moyen-Orient. C'est un peu... le monde est un peu fou. Là. C'est un peu n'importe quoi.
Je suis content que tu mentionnes ça, en fait, là, quand tu parles des munitions puis de l'Ukraine puis de la posture de l'Ukraine là-dedans, parce que c'est les Russes qui gagnent le plus dans la situation actuelle.
Oui. Ils ont quasiment l'air sympathiques.
Oui, puis encore plus que ça, un baril de pétrole, eux autres, ils postulaient là, pour leur budget 2026, ils vendent beaucoup de pétrole. Fait qu'il faut que tu fasses une moyenne. Tu sais à quoi tu t'attends que ça va ressembler les prix cette année. Eux autres avaient postulé un baril de pétrole autour de 59 $ par baril. Ils arrivaient avec un petit déficit à la fin de l'année. Là, ils arrivent avec un profit, un surplus à la fin de l'année dans leur budget, tout en étant impliqués dans une guerre qui draine leurs ressources. Ça donne une idée, à cause de la situation pétrolière actuelle, la Russie est en mesure de faire de l'argent, puis encore plus, on a su cette semaine, on se parlait il y a une couple de semaines d'un deal incroyable qui avait été fait entre l'Inde, les États-Unis. Je t'avais raconté comment on était un peu capable de sortir la Russie puis de l'Inde de leur relation en leur envoyant du pétrole du Venezuela.
Ouais.
Ben là, Trump vient de tout chier ça, en levant les sanctions sur la Russie pour vendre du pétrole à l'Inde parce que l'Inde a besoin de pétrole. Là, on avait réussi un coup de circuit. Là, on vient d'aller chercher la balle dehors dans le parc pour la renvoyer au marbre.
Oui.
C'est incompréhensible. On vient de retourner à la case départ.
En tout cas, c'est sûr que c'est intéressant à suivre, mais je suis pas sûr que c'est tout positif pour l'humanité. Merci, Benjamin. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Salut.
Bye-bye.
Salut, bye. Benjamin Tremblay, analyste en géopolitique que j'aime bien. Pour vrai, Benjamin, je l'écouterai pendant l'après-midi complète. Si vous voulez plus de Benjamin, c'est 7 jours sur Terre sur YouTube. Puis en même temps, je regardais du coin de l'œil, Pat, là, semble-t-il qu'il y a une fusillade dans une synagogue. C'est au Minnesota, je pense. Au Michigan, excuse.
Ouais, exactement, mais un temple d'Israël.
Ouais, fait c'est une synagogue.
Ouais, ben c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Là, je voulais juste que le au Michigan. Puis, en fait, ce qu'on en comprend, c'est une voiture qui aurait foncé dans le mur, qui aurait pris feu, puis par la suite, la personne serait rentrée à l'intérieur, là, avec on a entendu des tirs, mais on n'a pas beaucoup d'informations.
Parce qu'il y a de la police, là.
Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a un preschool. Fait que... Dans la synagogue, dans le temple, mais on n'a pas de détails s'il y a des blessés ou des décès. Fait que, mais c'est
non, mais il y a de la police en tabarouette, là.
On parle de active shooter, fait qu'il serait encore sur place.
En vous rappelant que, puis on vient d'avoir la discussion avec Benjamin, en vous rappelant qu'au Canada, on a 700 ressortissants iraniens qui pourraient avoir des liens avec le régime iranien. Savez-vous combien on a expulsé depuis 2023 de ces 700-là?
Combien, JC?
Un. Fait que voilà. 13h48, on vient.
Ouellette, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.